Europe 1, édition spéciale. Pierre de Villeneuve.
Ce qui est emmerdant, c'est si vous êtes sur le point de partir en vous disant « j'ai des regrets, j'ai des remords, j'ai pas fait ça, j'aurais dû » ou « je laisse derrière moi ». Vous avez vu le stade Vélodrome quand on a su que j'étais malade ? 50 000 mômes, parce qu'ils n'étaient pas, là à l'époque de la Coupe d'Europe, c'est leurs enfants. C'est bien, non, d'arriver à avoir donné du bonheur à des gens qu'ils transmettent à leurs enfants. Donc vous vous dites, bon, je suis pas né pour rien. Ensuite, j'ai ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Voilà, mes copains sont les mêmes depuis tout le temps. Ce qui est important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et j'ai réussi ma vie.
Bonsoir, bonsoir à tous. Les mots de Bernard Tapie en 2019 sur Europe 1. Bernard Tapie est mort ce matin à son domicile parisien, entouré de ses proches. Il avait 78 ans. Il luttait contre le cancer depuis 4 ans, cancer qui a fini par l'emporter. Tapie, c'était une gueule. Tapie, c'était une gouaille, un franc-parler. Une détermination à toute épreuve. On avait l'impression que rien ne pouvait l'arrêter. On l'aimait ou on le détestait. Il n'y avait pas de mesure. Cette vie qu'il a réussi, il le disait à l'instant, on vient de l'écouter, cette vie, elle a commencé dans un 20 mètres carrés dans le 20e à Paris, elle s'est terminée dans un hôtel particulier de Saint-Germain-des-Prés. Homme d'affaires, homme politique, patron de club, patron de presse, Tapie s'était essayé à la chanson, à la Formule 3, au théâtre, sa vie est totalement romanesque. Jusqu'à 20h, nous passons en revue les différents aspects de ce personnage truculent, agaçant, perturbant, avec nos invités en plateau. Christian Proutot, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur du GIGN, vous avez bien connu Bernard Tapie. Amin El Khatmi, bonsoir.
Bonsoir.
Président du Printemps Républicain, vous aussi, vous avez bien côtoyé Bernard Tapie. Bonsoir à Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur opinion de l'IFOP, on verra notamment avec vous la popularité extraordinaire de Tapie dans l'opinion publique. Et je salue Jean-François Pérez. Bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir
chef
à tous.
Chef du service des sports d'Europe 1, Tapie et l'OM, Tapie le Marseillais. Tout ça, ce sont des souvenirs pour vous évidemment, mais pas que. Mais pas que. D'autres invités nous rejoindront par téléphone pour évoquer ce parcours qu'on dirait aujourd'hui atypique, mais qui reste inscrit dans les annales des parcours de réussite, quoi qu'on en dise. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1, émission spéciale Bernard Tapie. Merci. Si vous nous rejoignez, il est 18h.
Europe 1, édition spéciale. Pierre de Villeneuve.
Tapie, 1943-2021. Tapie, l'homme aux mille vies. Tapie, l'homme aux mille visages. On va passer en revue ces carrières successives de Bernard Tapie avec vous, chers invités, qu'il avait bien connus. Mais d'abord, allons du côté de la rue des Saints-Pères à Paris, au domicile de Bernard Tapie. Écoutez ces personnes qui sont venues spontanément dès ce matin à l'annonce de sa mort peu avant 10h.
Pour moi, Bernard Tapie, c'était Marseille et l'OM. Voilà. C'était un grand homme. Il a marqué son histoire, il a marqué la vie française. C'était un grand Français pour moi et j'avais besoin de venir ce matin.
Voilà donc ces mots de Bernard Tapie. Déjà des premiers commentaires, Jean-François Pérez.
Je faisais la réflexion qu'on avait sans doute jamais autant vu d'écharpes de l'OM,
oui,
dans le 7e arrondissement de Paris.
Oui, et bien justement, on va y aller à Marseille, on va y aller directement où se trouve Stéphane Burgat, parce que évidemment au Vélodrome, c'était un Vélodrome, oui, en deuil, Stéphane.
Oui, exactement. C'est le pèlerinage. Hein, depuis ce matin, le parvis du stade Vélodrome côté boulevard Michelet, les supporters, même tout simplement des Marseillais qui sont parfois pas simplement des supporters qui sont venus rendre cet hommage à Bernard Tapie. Pourquoi le Vélodrome ? Pour l'OM, bien sûr. Et puis surtout parce qu'on a symboliquement installé une grande photo de l'homme d'affaires sur les marches du parvis. Photo où on le voit avec ce petit sourire gonflé d'assurance, ce regard très direct. Tiré à quatre épingles, superbe costard et ce ballon de foot à la main, de photo pour résumer tout l'homme, toute sa complexité. Les Marseillais qui se sont succédés, à commencer, on l'a vu tout à l'heure, par le maire de Marseille, Benoît Payan. Écoutez.
Et je me souviens, en 1993, j'avais 15 ans. Toutes les générations de Marseillais sont marquées par lui parce qu'il nous a apporté quelque chose. Et aujourd'hui, il faut se recueillir, il faut penser à lui et il faut lui rendre hommage. C'est ce qu'on fait. Mais plus que ça, c'est pas qu'une question de football. Les victoires, c'est aussi des moments pour les gens qui aiment le football ou pas le football. Je me souviens de ma grand-mère qui ne regarde pas forcément le football. Elle était folle de joie, elle était heureuse parce qu'on avait gagné la Coupe des Champions, parce qu'on était champion d'Europe. On était content parce qu'on devenait champion de France ou parce qu'on faisait des doublés avec la Coupe de France. Et regardez les Marseillais, ben voilà, ils l'aiment en fait. Voilà. C'était un personnage complexe qui, en tout cas sur ses valeurs et face au Front National, a toujours été ferme et fort. Et c'est ça que je veux retenir. Merci.
Alors, on voit de très nombreuses fleurs hein, ici, des photos, des miniatures aussi de la Coupe d'Europe qui ont été déposées. Et puis, on a pu surtout entendre hein, tout l'après-midi des chants, le nom de Bernard Tapie hein, qui a été scandé, car beaucoup de monde ici, eh bien, beaucoup de Marseillais ont leur histoire très personnelle avec Bernard Tapie qui va au-delà du foot. C'est le cas de Yasmina.
Bernard Tapie, c'est une icône à Marseille. Je l'ai connu, j'avais 13 ans, j'étais au collège. Et il nous a dit, voilà, croyez en vos rêves, je suis comme vous, je suis venue d'en bas. Et si vous avez des capacités, il faut réussir sa vie. Comment vous dire, son charisme, sa personne, là où il met la main, ça devient de l'or. Voilà, pour nous, c'est, voilà, même quand on a des coups bas dans la vie, quand on voit Bernard Tapie, pour nous, c'est un exemple, c'est une légende.
Et il y a des supporters qui ont aussi réalisé tout à l'heure une sorte de happening. Ils ont installé une très longue bâche ici, là, au pied du vélodrome, pour renommer, hein, c'est un petit peu comme un cri du cœur, le Bernard Tapie Vélodrome.
Voilà, ça c'est. Merci beaucoup Stéphane Burgat, Jean-François Pérez. D'un petit mot, cet hommage au vélodrome, c'est naturel, c'est tout à fait normal. C'est Bernard Tapie, le Parisien, le Français, le Marseillais.
Oui, il n'était plus Parisien, il était devenu Marseillais par adoption, comme beaucoup de Marseillais, parce qu'il aimait cette ville, il aimait les gens, il aimait parler. Je rappelle qu'il a quand même été élu aussi de Marseille. Hein. Il a été député, il n'était pas absolument si loin d'en devenir le maire dans les années 90. J'imagine que vous allez en reparler dans les minutes qui viennent. Mais c'est quelqu'un qui s'était totalement ancré dans la vie de cette cité, non seulement par le club de foot qui avait été sa porte d'entrée, mais ensuite par la politique et puis par la suite aussi par le fait qu'il avait racheté le quotidien, la Provence. Et c'est quelqu'un qui a toujours tenu, avec en plus le bateau, le Phocéa, qu'il avait nommé quand même du nom de la ville, parce que Marseille, c'est des Grecs de Phocé qui l'ont fondé. Donc voilà, il avait un lien total, permanent, jusqu'au bout avec Marseille.
On va revenir à Marseille avec vous, chers amis en plateau, mais nous avons la chance d'être au téléphone avec Jean-Louis Borloo. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. 44 ans d'amitié avec Bernard Tapie. Vous avez fait le compte, ça fait un demi-siècle presque. Hein.
Eh ben oui. Voilà, 44 ans. Moi, j'ai vu... J'ai essayé de réfléchir au fond, qu'est-ce qu'il résume ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut à la fois jouer avec Lelouch au cinéma, vol au-dessus d'un coucou au théâtre, la Champions League avec Marseille, encore de l'Atlantique, les titres de champion du monde et les Tours de France, la musique, ministre de la République. Qu'est-ce qui fait que cet homme avait autant de... Bien sûr qu'il y a du talent dans chacun des domaines. Mais il y avait un truc qui reliait tout ça, c'est l'amour. C'est que c'était une boule d'amour et de générosité qui, du coup, pouvait embarquer tout le monde. Rien ne se fait par le talent individuel. Et c'est la constante absolue. Et y compris contre la maladie, quand il se battait, eh bien, il allait communiquer pour donner le moral à tous ceux qui lutte contre la maladie. Donc c'est l'amour de sa femme, c'est l'amour de sa famille, c'est l'amour de Marseille, c'est l'amour des quartiers, c'est l'amour de chacune et de chacun d'entre nous. Voilà, il avait cette force, cette puissance et cette rage qui qui déplaçait les montagnes et de temps en temps, mais une montagne qui en cognait une autre, c'est le propre de ces situations, de ces légendes et de ces hommes-là. Voilà. C'est quelqu'un d'absolument hors norme.
Vous parlez d'amour, Jean-Louis Borloo. Comment est-ce que un ami, pendant 44 ans, vous transmet l'amour ? Est-ce que cet ami, comme disait Clémenceau, c'est celui que vous appelez à 3h du matin pour lui dire « j'ai tué un homme » et qui vous répond « où est le corps ?»
Oui, c'est ça, mais il avait tué personne. Et au fond, ce que je trouve terrible, c'est qu'après tout ce qu'il a donné, alors parfois de manière tumultueuse, peu importe, mais tout ce qu'il a donné qu'il menait ce combat contre cette cochonnerie de maladie, eh bien, il y avait encore... voilà, il était encore harcelé jusqu'à la fin. Et ça, ça provient des fâcheux, de ceux qui n'avaient pas tout ce qu'il proposait et qu'il offrait, qu'il donnait, et qui en était mari.
C'est quoi le dernier fou rire que vous avez eu avec Bernard Tapie, Jean-Louis Borloo ?
Un fou rire, je ne sais pas, mais ce qui est plus qu'un fou rire, c'est il y a deux, trois jours, je ne sais plus, la main chaude, il y avait Dominique, les enfants, etc. Ouais. Et puis, alors qu'il souffrait,
ouais.
Eh bien, c'est l'espèce de commissure des lèvres qui remontait légèrement comme un sourire et avec un œil rieur qui clignait, vous savez, comme un pote, quoi. C'est, voilà. C'est pas un fou rire, c'est plus beau qu'un fou rire.
Merci beaucoup, Jean-Luc Borloo. Merci pour cette dernière image que vous nous avez donnée, très intime, de Bernard Tapie, qui nous a donc quittés aujourd'hui à 78 ans. Chers amis dans le studio, Bernard Tapie, on est un peu ému là quand même. Hein. Avec Jean-Louis Borloo, il y a un coup d'émotion là qui nous arrive dessus, Frédéric Dabi.
Ah, je partage complètement ce que vous dites. Il y a une véritable émotion quand une personnalité hors norme de fait disparaît. Alors tout le monde dit qu'il a eu 1000 vies. Hein. Mm. Catherine Ney pour François Mitterrand avait parlé des 7 Mitterrand. Il y a plus que 7 Bernard Tapie. On ne va pas faire la liste, on en parlera peut-être ce soir. Et quand une personnalité hors norme disparaît, qui a accompagné la vie des Français depuis le début des années 80, chacun a son Bernard Tapie. Et que ce soit quelqu'un qui soit aussi intime que Jean-Louis Borloo, qui était vraiment son ami, son avocat, on sait très bien tout ce qu'ils se doivent l'un l'autre, et quelqu'un qu'il a moins connu, quelqu'un qu'il n'a pas du tout connu. J'ai eu la chance de le voir à plusieurs reprises. Je garde bien sûr ça pour moi. Mais voilà, chacun a une émotion absolument intense. Et c'est vrai qu'on est dans un pays où on met rapidement des gens dans des cases. Vous êtes politique, vous êtes acteur, vous êtes chanteur, vous êtes économiste.
C'est vrai, lui, c'est très français. Hein.
C'est très français. Ouais. Et lui, il a réussi, je reprends votre terme, Amine, il a réussi à faire exploser les cases et présenter aux Français un véritable kaléidoscope du malade du cancer qu'on a vu en fin de parcours, qui a été si courageux, celui qui a vulgarisé l'économie dans les années 80.
Christian Proutot, c'est très difficile pour nous de recevoir les amis dont vous faites partie, les amis de quelqu'un qui vient de disparaître, parce qu'évidemment vous êtes sous le coup de l'émotion. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme, effectivement, comme vient de le dire Frédéric Dabi, aux mille vies, aux mille visages?
Alors, moi, le qualificatif d'ami, je ne voudrais pas l'usurper parce que, au départ, c'est une relation professionnelle qui a conduit, à travers une mission que m'avait confiée François Mitterrand à l'époque où il s'était rapproché de lui, dans le cadre de la politique qu'il avait décidé de mener contre l'extrême droite.
Ouais.
Il était menacé et on m'avait demandé d'assurer sa sécurité. Et c'est comme ça que j'ai connu Bernard Tapie qui, pour moi, au départ, n'était pas encore le personnage que l'on connaissait parce que je ne m'intéressais pas suffisamment au sport, j'avais d'autres préoccupations. Et tout d'un coup, la première interrogation que j'ai eue, c'est savoir comment Mitterrand, dont je savais qu'il était impressionné par personne, avait pu être fasciné par Bernard Tapie.
Et alors il vous l'a dit?
Il me l'a pas dit, mais je l'ai compris.
Il disait peu de choses quand même, François Mitterrand.
Alors Mitterrand, quand vous lui posiez ce genre de questions, en général, il répondait par une pirouette.
C'est ça.
Et il vous disait, mais regardez, avant de me poser la question, parlez-lui et vous comprendrez. Donc voilà, donc c'était plus moi, je vais vous répondre, mais posez-lui la question, voyez le personnage et vous verrez.
Amine El Khatmi, de votre côté, quelle relation vous aviez avec Bernard Tapie?
Non, moi je ne l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai vu quand il a pris la direction de la Provence.
Ouais.
À l'époque, c'est Olivier Mazerolle qui était le patron de la direction. Et nous venions de gagner la ville d'Avignon en 2014. Et il avait commencé à venir dans la ville, à rencontrer les élus. Parce que même s'il était devenu patron de presse, entre autres 1000 fonctions et 1000 métiers, il était resté très politique et donc il voulait absolument savoir dans le territoire que couvrait la Provence, le moindre conseiller général, le moindre petit maire de la petite commune, le moindre petit patron de communauté de communes qui se plaignait que la Provence ne traitait pas bien son territoire, que tel journaliste était un peu méchant, que tel brève n'était pas passé. Et alors qu'il aurait pu s'en moquer, diriger tout ça de loin et dire vous gérez ça avec les journalistes, il s'intéressait et il se mêlait de tout ça et il allait régler le moindre conflit, rencontrer le moindre élu. Et donc on voyait que l'animal politique qu'il était
plus présent que jamais.
Amine El Khatmi, Frédéric Dabi, Jean-François Pérez, Christian Proutot, on va parler de Tapie, l'homme d'affaires, parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est par là que tout commence. Très jeune, il vend des télés, il fera pendant 10 ans. À 34 ans, il se spécialise dans le rachat d'entreprises en difficulté. C'est ça qui le rendra d'ailleurs très riche. Il y a eu l'affaire Manu France où il n'a pas pu racheter les actifs, mais ensuite, il rachète, ça devient sa spécialité. Il rachète pour un franc symbolique de nombreuses sociétés qui ensuite sont valorisées à plusieurs millions de francs. Rayon, Look, La Vie Claire, Testu, Wonder, Donnet, l'homme d'affaires Bernard Tapie, l'homme d'affaires et les affaires, bien sûr. La plus longue, la plus importante, c'est bien sûr l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. On fait le point avec Marion Dubreuil.
Exactement. Tout débute en 1993. Bernard Tapie est à l'époque ministre de la ville. Il veut faire carrière en politique et pour acter sa reconversion, l'homme d'affaires cherche à vendre au plus vite ses entreprises et notamment Adidas. Il confie ce mandat de vente au Crédit Lyonnais, qui est alors une banque publique. Le Crédit Lyonnais rachète l'équipementier sportif avant de le revendre bien plus cher. Bernard Tapie estime que le Crédit Lyonnais a fait cette plus-value sur son dos. Il réclame près d'1 milliard d'euros à la banque. C'est le début de la saga judiciaire. En 2008, un tribunal arbitral donne raison à Bernard Tapie et l'État doit lui verser 403 millions d'euros. C'est sans compter la ténacité de certains magistrats. Retournement de situation en 2015. La justice annule l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie. L'homme d'affaires est condamné à rembourser la totalité des 403 millions d'euros. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est ensuite poursuivi pénalement pour escroquerie et détournement de fonds publics. Un premier procès en 2019 conduit à sa relaxe. Il est ensuite jugé en appel en mai dernier. Au beau milieu de son procès, son état de santé se dégrade. Le procureur de la République requiert malgré tout 5 ans de prison en son absence. La cour d'appel de Paris devait rendre sa décision le 6 octobre prochain.
Merci Marion Dubreuil. Ajoutons, parce que c'est important, que le décès de Bernard Tapie va donc entraîner la fin des poursuites pénales à son encontre. Mercredi, la cour d'appel de Paris dont vous parliez, Marion, dans l'arbitrage Adidas Crédit Lyonnais, ne prononcera ni relax, ni condamnation, elle va constater, comme il est d'usage, l'extinction de l'action publique à son encontre. Ce matin, dans l'émission spéciale sur Europe 1, Laurent Tapie, l'un des fils de Bernard Tapie, témoignait en exclusivité. Et pour lui, en rachetant ces entreprises qui étaient vouées à disparaître, eh bien Bernard Tapie sauvait des emplois. On l'écoute.
Moi, j'aimerais qu'une fois pour toutes, maintenant qu'il est mort, on comprenne que les emplois qui ont été supprimés, c'était des emplois perdus. Est-ce qu'un jour, après 28 ans, vous allez comprendre ça, que les entreprises qui rachetaient étaient mortes, que quand ils prenaient une boîte et qu'il y avait 1000 personnes, s'il en enlevait 300, c'était 700 qui étaient sauvés, c'était pas 300 qui étaient supprimés, c'était 700 qui étaient sauvés. Et on a sauvé des milliers des emplois. C'est ça que vous n'avez jamais pu comprendre. Il a sauvé des milliers d'emplois. Quand un chirurgien vous coupe une jambe, on ne va pas s'attarder sur la jambe qui est coupée. Il vous sauve la vie.
Voilà, la colère de Laurent Tapie contre des détracteurs de son père. C'était la toute première prise de parole de Laurent Tapie. C'était sur Europe 1 ce matin à 10h avec Sonia Mabrouk. C'était un franc-parler.
Il a la voix de son père.
Il a la voix de son père, Laurent Tapie.
C'est
incroyable. C'est perturbant.
Quand on écoute l'intonation, la façon de parler, on entend son père.
Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Laurent Tapie sur le fait qu'effectivement, il sauvait des emplois, il prend l'exemple, voilà, il y a une entreprise en difficulté, il y a 1000 personnes. Sur les 1000 personnes, on peut sauver que 700 emplois.
C'est un fils, pardon, qui parle de son père le jour de son décès. Que voulez-vous qu'il dise d'autre que d'en dresser des louanges. Alors, le jour du départ de quelqu'un, c'est pas le moment de sortir les polémiques et d'aller chipoter. Mais c'était pas, tout n'était pas blanc, tout n'était pas noir. Et lorsque j'écoutais aussi il y a quelques semaines, avant qu'il ne décède, des témoignages de syndicalistes qui étaient dans ces boîtes.
Oui.
Et qui dressait des portraits un peu plus rudes, beaucoup moins lisses.
En tout cas, plus contrastés.
Voilà, ouais. Beaucoup plus contrastés, de méthodes qui étaient beaucoup plus brutales. Bon, mais c'est un fils qui parle de son père et c'est normal.
Frédéric
Oui, on se souvient que Bernard Tapie défendait très fortement son bilan dans ces différentes entreprises. Il y a une archive célèbre, le fameux jeu de la vérité dans les années 80, où il avait été rudoyé par un syndicaliste CGT, et c'est vrai qu'il s'était mis en colère. Il avait quand même retourné la salle, il lui avait prouvé par A plus B, comme vraiment le dit son fils, que certains sacrifices étaient nécessaires pour des entreprises qui étaient au bord du dépôt de bilan, mais qu'il avait finalement créé beaucoup d'emplois. C'est quelque chose qui pouvait le mettre très facilement en colère, parce que c'est quand même le début de l'ascension Tapie, c'est cette réussite économique, comme le dit Amine, a été parfois jugée controversée.
Bernard Tapie, l'homme d'affaires, Bernard Tapie, l'homme politique, Bernard Tapie, 1943-2021, émission spéciale sur Europe 1. On retourne dans un instant.
Europe 1, édition spéciale. Pierre de Villeneuve.
Édition spéciale sur la mort de Bernard Tapie qui nous a quittés ce matin à 8h40 à son domicile parisien à l'âge de 78 ans. On vient de parler de l'homme d'affaires Bernard Tapie. Bernard Tapie aussi l'homme politique, Tapie ministre, c'est l'autre aspect du personnage. Juste avant la présidentielle de 1988, le publicitaire Jacques Séguéla présente Tapie à François Mitterrand. Tapie est élu député des Bouches-du-Rhône sous l'étiquette majorité présidentielle en 89. Il devient ministre de la ville 3 ans plus tard, mais Alexandre Chauveau, sa nomination ne sera que de courte durée.
Oui, tout à fait. Et ce qui a surtout marqué dans sa carrière politique, c'est son opposition à Jean-Marie Le Pen. La première opposition restée dans les annales des débats télévisés remonte à 1989. Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen débattent de l'immigration sur TF1 et le duel vire presque à l'affrontement physique.
Vous êtes un grotesque.
Ensuite, monsieur.
Vous êtes un pitre, monsieur.
Vous avez dit, attendez. Attention.
Écoutez, vous êtes un pitre.
Vous avez dit qu'il n'y aurait pas d'énormité comme ça.
Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait.
Parce que vous avez votre garde du corps, là.
Non, moi.
Vous rigolez. Enfin, regardez-vous.
Bernard Tapie est alors fraîchement élu député des Bouches-du-Rhône et sa performance face à un débatteur redouté impressionne. Pierre Bérégovoy le nomme ministre 3 ans plus tard sur ordre de François Mitterrand. Mais l'histoire tumultueuse entre le fondateur du Front National et Bernard Tapie ne s'arrête pas là. En 92, alors en campagne pour les régionales, Tapie insulte les électeurs FN.
C'est parce qu'on déculpabilise ceux qui se trouvent une bonne raison qu'on a un Front National si fort. Car si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds.
Jean-Marie Le Pen porte plainte et fait condamner Tapie pour injure publique. Tapie et Le Pen se retrouvent pour la dernière fois face à face 2 ans plus tard pour les élections européennes de 94, cette fois sur France 2. Paul Amar anime le débat et sort symboliquement des gants de boxe en début d'émission.
Est-ce que vous allez les utiliser à votre avis ou pas ?
Non, nous ne les avons pas utilisés, nous n'en avons pas besoin, mais je les aurais acceptés si on m'en avait fait cadeau. Je vois que la générosité d'Antenne 2 ne va pas jusque-là.
Non, c'est
uniquement un petit effet de tribune.
Pas qu'il y a là entre les hommes politiques et nous, Bernard Tapie, donc intention également pacifique ?
C'est sérieux la politique.
L'ancien patron de l'OM aura combattu le parti d'extrême droite jusqu'à la fin de sa vie. Au dernier régional en juin dernier, il appelait au second tour à faire barrage en PACA à la liste de Thierry Mariani, candidat du Rassemblement National.
Merci Alexandre Chauveau, c'est marrant de réécouter ces échanges. Oui, c'est marrant, c'est aussi plein de gouailles. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient sur les plateaux télévisés affronter Jean-Marie Le Pen avec autant de franc-parler. Il y en avait qui l'affrontaient, il y avait l'heure de vérité, il y avait plein d'émissions politiques, il y a eu 7 sur 7, mais il y a eu Frédéric Dabi ce franc-parler.
Vous avez raison, mais l'heure de vérité 7 sur 7, ce n'était pas face à des hommes ou des femmes politiques. C'était face à des journalistes.
Y compris
Georges Marchais, qui était le plus connu comme étant un hâbleur et quelqu'un qui était très à l'aise dans le cadre du débat en face-à-face, n'acceptait de combattre, si je puis dire, Jean-Marie Le Pen. André Lajoigny avait été un des premiers à accepter avant la présidentielle de 88. Personne n'avait fait. Et ce qui est vrai, ce qui a quand même marqué les Français et les Français de gauche qui avaient un regard sur Tapie, le Tapie homme d'affaires, le Tapie années 80 de l'émission Ambition,
Tapie
très
un
sévère.
Bling bling,
peut-être, repoussoir. Les Français proches de la gauche ont aimé le fait que ça a été peut-être le premier qui a fait vaciller Jean-Marie Le Pen lors de cette émission qui avait été sur TF1, vous le disiez, sur l'immigration et qui avait été animée par Patrick Poudre. C'est vraiment le début de l'ascension de Bernard Tapie homme politique, avec en plus le fait qu'il ait trouvé tout de suite un fief, à savoir Marseille, les Bouches-du-Rhône, et dans sa tête, c'est vrai, c'est peut-être son plus grand regret, pardon de parler pour lui, c'est ce mandat de maire de Marseille, parce que c'est la veuve de Gaston Defer, l'écrivaine Edmonde Charleroux, qui lui met le pied à l'étrier.
Ouais. Amine El-Khadri.
Oui, parce qu'avec le recul, aujourd'hui, tout le monde débat avec Marine Le Pen, tout le monde débat avec Zemmour. Vous avez même des gens qui sont candidats, qui envoient des courriers aux rédactions pour débattre avec Zemmour. Dans ces années-là, ce n'était pas le cas. Il y avait un cordon sanitaire beaucoup plus...
C'est joliment dit, ouais.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Autour des Le Pen, on ne débattait pas avec eux. On se souvient, même 2002, Jacques Chirac est au second tour face à Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas de débat d'entre-deux-tours. Depuis, il y a eu des débats d'entre-deux-tours. Évidemment, le dernier, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, c'est une époque où vraiment, on ne débat pas, on ne parle pas, on ne négocie pas, on ne va pas à la télévision, à part des journalistes, évidemment, discuter avec Le Pen. Et c'est le premier qui y va et qui porte cette parole. Et c'est sans doute ce qui a effectivement plu chez une partie des électeurs de gauche.
C'est une prise de risque aussi, hein, d'aller comme ça sur un plateau de télévision en disant « je vais sortir ». Et puis une prise de risque aussi pour ceux qui acceptent le risque d'envoyer Tapie. En se disant, oulala, qu'est-ce qui va se passer, Christian Proto ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à l'époque, effectivement, de cette diabolisation, où, d'une certaine manière, c'était accréditer l'existence politique de quelque chose dont on disait qu'il ne fallait pas que ça existe, l'extrême droite, il y avait aussi la trouille d'affronter Le Pen, dont on savait que c'était un débatteur redoutable.
Remarquable, redoutable, avec beaucoup d'arguments et qui bossait ses dossiers, bien sûr. Ouais.
Et que, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il dit qu'il voterait peut-être Zemmour, mais parce qu'il n'a toujours pas perdu de son efficacité linguistique. Mais il se trouve que Tapie n'a pas eu cette peur. Et je pense que ça a impressionné beaucoup de monde. Et je voudrais rajouter quelque chose pour l'avoir, puisque je l'ai croisé et j'ai pu en parler un peu avec lui. Il y croyait sincèrement. Il était contre l'extrême droite, sincèrement. Et je pense que ce n'était pas qu'une posture. Autant il était capable d'avoir des postures quand ça l'arrangeait par rapport à ce qu'on a appelé ses problèmes, et ça peut se comprendre, autant il était dans ses idées par rapport à la jeunesse, y compris par rapport à Marseille. Pourquoi il aimait Marseille ? Parce qu'il venait d'une extraction basse, et il se reconnaissait dans cette jeunesse, et peut-être il ne l'a pas forcément toujours bien fait, mais il croyait qu'il arriverait à sauver tout le monde. Et le foot a fait partie également de ce en quoi il croyait, c'est-à-dire donner du plaisir aux gens. Mais pour en revenir à la politique, pour en avoir parlé avec lui, pas autant que ça, mais à des moments où il était en danger, où on l'avait menacé, eh bien, lui considérait qu'il était normal qu'il affronte quelque chose qu'il considérait comme dangereux pour son pays et les valeurs qu'il défendait.
Je sais que c'est des conversations privées entre vous et lui, Christian Proto, mais donnez-nous un petit peu la tonalité de ces conversations. Est-ce que quand il sortait d'une émission comme ça, il était en colère ? Est-ce qu'il disait je lui en mets plein la figure ? Il était sur le ring ?
Il faut pas confondre quand il était sur le ring. Moi, je l'ai pas vu. Ce sont plutôt mes hommes après qui me racontaient un petit peu parce qu'ils avaient le feedback après les émissions. Moi, je l'ai vu quelques fois et je ne lui posais que des questions par rapport à ce que moi j'avais vu. Mais je n'étais pas, je l'accompagnais pas, puisque il voulait essentiellement. Au départ, il voulait même pas qu'on l'accompagne.
Ouais.
Il avait dit.
C'est pas très étonnant.
Protéger mes enfants, c'est la seule chose qui soit importante. Il dit non, s'il vous arrive quelque chose, ça fera des ordres.
Autre invité de cette spéciale sur Europe 1, le président de la région Sud. Bonsoir Renaud Muselier.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct d'une rue de Marseille, j'imagine, parce qu'il y a des motos qui passent derrière vous assez vite d'ailleurs. Attention à vous, hein, Renaud Muselier. Tapie le politique, on vient d'en parler, Tapie le Marseillais. Ça fait beaucoup pour une seule réaction, mais le personnage est d'envergure quand même, hein, Renaud Muselier.
Le personnage est assez exceptionnel. C'est des êtres humains qui sont rares quand on le croise dans une vie, parce qu'il avait, quand il était en pleine santé, une forme absolument incroyable, une énergie remarquable, et puis c'est un tempérament de feu, je dirais, et avec une capacité de faire un certain nombre de choses. Ici à Marseille, bien sûr, la ville est orpheline, vous vous retrouvez avec une personnalité qui colle parfaitement à l'image de la ville, une ville populaire, une ville un peu rebelle, une ville qui fait du bruit, une ville qui veut gagner. Et il incarnait tout ça. Donc forcément, aujourd'hui, il y a un choc très fort, même si tout le monde s'y préparait. Bon, on a beau s'y préparer, le choc est là.
Comment est-ce que vous avez connu, vous, Bernard Tapie ?
Moi, c'est une vieille histoire. Hein. Je connaissais Bernard Tapie lorsqu'il faisait de la politique à la région contre la droite. Une relation était un peu tendue. Puis au fil du temps, lui ayant été abandonné par les socialistes, on est devenus très amis, par le foot aussi. Mmh. On a fait un certain nombre de déplacements à l'étranger. Et puis, au fil de l'eau, il m'a soutenu particulièrement avec une très grande détermination dans la dernière campagne régionale, où il avait son ami Muselier qui était contre le Rassemblement National, le Front National, il ne pouvait pas le supporter. Et donc, il s'est engagé pleinement à mes côtés. Et c'était très agréable de l'avoir une ou deux fois par semaine, d'ailleurs, pour donner des conseils, donner des avis. Il avait l'esprit particulièrement vif et je pense que ça lui faisait... ça l'amusait de faire ce combat, un dernier combat, comme il aimait tant les faire.
Qu'est-ce qu'il vous disait, justement, contre le Front National? Il vous donnait des conseils, peut-être, justement?
Ah oui, de toute façon, c'était un garçon, c'était un homme qui avait, bien entendu, beaucoup de talent et il avait un sens tactique particulièrement développé. Ouais. Donc, il était malin et rusé comme un renard. Il était fort comme un lion et donc, il m'a donné quelques conseils, d'ailleurs, qui, finalement, ne m'ont pas desservi, et bien au contraire. Il a même accepté de faire une vidéo en mai, puisque c'était l'anniversaire de la victoire à la Coupe d'Europe, et il s'était exprimé là-dessus en rappelant l'amour que nous avons ensemble pour le ballon, pour Marseille, et notre lutte contre le Front National.
Qu'est-ce que c'était les conversations avec Bernard Tapie? Des fous rires, des conversations déridées?
Disons que... Non, pas trop d'engueulade. Enfin, de toute façon... On critiquait beaucoup la presse, tous les deux, sur les commentaires
Merci
de la presse.
Merci Renaud Muselier.
Et après, ça m'amusait beaucoup de voir qu'il était patron d'un organe de presse influent. Et on en riait tous les deux avec beaucoup de malice. Et finalement, tout ça rentre dans l'ordre normal. Même si, vous voyez, vous m'avez dit merci, mais je vous réponds volontiers.
Oui.
De toute façon, chacun fait son boulot et avec un peu d'humour, c'est pas mal.
Et puis en matière de franc-parler, vous êtes quand même dans ceux qui le manient plutôt bien, Renaud Muselier, on est d'accord?
C'est pour ça qu'on s'entendait bien avec Bernard, parce qu'on dit ce qu'on pense et on le fait avec un clin d'œil toujours un peu malicieux, puis parfois un ton un peu brutal aussi, mais en tout cas, c'est loyal et correct.
Vous avez parlé de la Provence, c'est intéressant. Effectivement, il était patron de presse. Vous venez de nous dire l'opinion qu'il avait peut-être de certains journalistes. Je n'ai pas envie de mettre tout dans le même sac. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des consignes ou à tout le moins, une revue des troupes à la Provence ou comment ça se passait? Vous savez ça?
Honnêtement, la Provence était plutôt plutôt un journal d'ailleurs qui a été toujours assez favorable auprès de moi, en tout cas tout à fait objectif, ce qui est le plus important en tout cas pour moi. Et lui comme moi savons très bien que toute pression a immédiatement, ou si c'est pas immédiatement, un effet inverse. Donc il vaut mieux éviter les pressions et essayer de la jouer franc jeu, d'avoir des relations convenables, correctes. C'est le seul moyen d'avoir avec la presse, ou en tout cas l'immense majorité de vos confrères, des relations objectives et bien traitées sur le plan professionnel.
J'ai une dernière question pour vous, Renaud Muselier. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure le son qu'on a passé de Laurent Tapie, qui est son fils et qui a fait une première prise de parole sur Europe 1 tôt ce matin au micro de Sonia Mabrouk à 10h et qui disait « Mais attendez, les entreprises que Bernard Tapie, mon père, rachetait un franc symbolique pour ensuite les valoriser à plusieurs millions, effectivement, il y avait des emplois qui pouvaient être sauvés, d'autres non. Donc quand même, il sauvait des emplois, même si c'était 300 sur 1000, par exemple.
Oui, écoutez, moi, je ne reviens pas remonter dans le passé de lui en tant que chef d'entreprise. Il a gagné, avec le Tour de France, il a gagné la traversée de l'Atlantique. Il a gagné avec l'OM. C'est un homme qui ne voulait pas la deuxième place. C'est quelque chose de tout à fait attachant. Bien entendu, dans l'entreprise, c'est la même chose. Alors après, c'est un chef d'entreprise, c'est un homme d'affaires, c'est un homme politique. Il avait toutes les cordes à son arc avec une dimension, une vision nationale et internationale, ce qui est assez rare. Et il était particulièrement courageux, ce qui est très rare dans la classe politique.
Merci beaucoup, Renaud Muselier, d'avoir été en direct sur Europe ce soir. Merci à vous.
Merci à vous.
On reste à Marseille et on rejoint Samia Ghali. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de répondre à nos questions. Sam Egali, conseillère départementale de Bouches-du-Rhône, ancienne sénatrice. Marseille, c'est l'un des grands amours de Bernard Tapie.
Marseille, c'est l'amour tout court de Bernard Tapie.
Et l'amour, l'amitié, comment ça
c'est
se passait
tout,
avec
c'est
lui
la fraternité,
et
l'amour,
comment ça
l'amitié.
Se passait et la loyauté et la fidélité, comment ça se passait avec Bernard Tapie, vous qui le connaissiez bien?
C'est fidèle en amitié. Voilà, quelqu'un d'assez franc, de bienveillant. Et,
à quel point de vue, si je puis me permettre?
Bah écoutez, moi je sais que franchement, c'est quelqu'un qui m'appelait régulièrement et qui prenait, moi je n'osais jamais le déranger parce que je savais qu'il était fatigué, qu'il avait le combat à mener. Et lui, il m'appelait tous les 15 jours et à des fois même Stéphane me disait...
Ah, je crois qu'on a un problème technique. Ah, c'est bon, on vous a retrouvé, Sam Egali. Vous disiez.
Oui, c'est bon. Oui, je disais que des fois, même avec Stéphane, on en riait parce qu'il me disait, ah, mais dis, t'appelles plus à toi qu'à moi.
Il y avait donc cette amitié partagée, j'imagine. Comment est-ce que vous retiendriez le rôle qu'a eu Bernard Tapie à Marseille? D'ailleurs, il veut y revenir. Bah, on a décidément un problème technique avec Sam Egali. On va la remercier.
Je crois que ça coupe en fait. Hein,
ouais. Ah, mais ça y est, on vous retrouve.
C'est bon
par bribes. Voilà. Oui, je vous écoute.
C'est par bribes, je suis désolée. Oui, il a eu le rôle qu'il a souhaité avoir, c'est-à-dire finalement le phénix de la ville.
Ça vous fait plaisir que les obsèques aient lieu à Marseille, Sam Egali?
Je savais c'est qu'il voulait revenir à Marseille. D'abord, il voulait revenir habiter à Marseille. Il voulait venir habiter à Marseille, finir ses jours à Marseille. Mais finalement, là, il va reposer à Marseille, définitivement. Et ben, c'est un symbole, mais c'est aussi, ça montre à quel point il n'était pas hypocrite avec la ville et avec les Marseillaises et les Marseillais. Jusqu'au bout, fidèle.
Merci beaucoup, Sam Egali. On sent votre émotion encore très prégnante ce soir à la disparition de Bernard Tapie à l'âge de 78 ans. Nous sommes ensemble sur Europe 1 à 18h37. On va marquer une pause et on revient. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec nos invités. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale. Pierre de Villeneuve.
Tapie 1943-2021. Bernard Tapie nous a quittés tôt ce matin à 8h40 des suites de son cancer à son domicile parisien. Bernard Tapie, l'homme d'affaires, Bernard Tapie, l'homme politique, l'homme aux mille visages, l'homme qui marche à la Wonder. Il y avait cette publicité également. Il y avait aussi ce sondage. Alors, Frédéric Dabi, je parle sous votre contrôle. Vous étiez pas sondeur, je pense, à cette époque-là. Je crois que c'était au milieu des années 80. Il avait encore été l'homme. L'homme le plus séduisant après Alain Delon auprès des femmes. C'est quand même extraordinaire.
Vous m'apprenez l'existence
voilà,
de sondage. Merci.
Je vous apprends un sondage.
Je ne peux pas tous les connaître, mais effectivement. Non, moi, j'ai surtout en tête le top 50 des personnalités IFOP JDD. Et dans le premier top 50 de février 88, il était en 10e position. Il était très bien placé, effectivement, chez les femmes. Mais il a eu un rapport à la popularité assez en fait compliqué. Il est resté quelques années dans le top 50. Il en est sorti parce qu'il était extrêmement clivant, segmentant. C'est quelqu'un, on a parlé tout à l'heure de Marseille, qui s'est fait élire contre un député de droite dans la ville de Marseille. Il était dans les Bouches-du-Rhône, il était très bien vu à gauche, on a vu pourquoi, mais il y avait aussi une odeur de soufre. Il était très rejeté à droite et au Rassemblement national, donc il avait une popularité extrêmement accidentée. J'ai retrouvé un sondage de 2010 où il n'a que 37% de bonnes opinions. Et puis, il y a eu vraiment un élan très fort suite à l'annonce de sa maladie, suite au courage qu'il a montré. Et donc, dans ce cadre, il a eu de plus en plus, ce qu'il n'avait pas avant, une popularité consensuelle. J'ai retrouvé une enquête IFOP fiduciale il y a quelques années, il y a 2-3 ans, où il y avait 55% de bonnes opinions. Et on avait repris la même formulation que le baromètre Paris Match. Et s'il avait été dans ce baromètre Paris Match, il n'était plus homme politique, il ne pouvait pas y être, mais il aurait été deuxième ou troisième, juste derrière Nicolas Hulot. Mais pour la petite histoire, il avait un rapport à la popularité assez spécial. Il voulait être aimé par tout le monde. Et quand je lui avais annoncé, il y a maintenant 2-3 ans, c'était à Noël 2018, qu'il avait ce score, je pensais qu'il serait content.
Ouais.
Il n'était pas du tout content.
Ah
qu'est-ce
bon
que ça veut dire que 45% des gens ont une mauvaise opinion de moi? Vos sondages sont mal faits. Donc voilà, il y avait une envie.
C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié
vide. Exactement, mais c'était dans un...
Il voulait qu'il soit plein à ras bord.
Exactement.
Ouais. Et alors vous qui êtes un homme politique, Amine El Khatmi, cette question de popularité, ça vous étonne, ça vous angoisse, ça vous effraie?
Non, mais c'est pas étonnant qu'un personnage aussi clivant soit justement clive, quoi, justement, parce que je crois que c'est la chose sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est qu'il ne laissait personne indifférent. Et d'ailleurs, on voit dans les réactions, j'ai été très frappé aujourd'hui quand, alors pas des réactions officielles des politiques, mais lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux notamment, vous avez des messages très forts, mais dans les deux sens, soit des gens qui disent c'est un salaud d'escroc, voilà, il a fait du fric toute sa vie, et donc des gens qui sont vraiment dans une forme de violence, ouais. Et puis des messages très beaux. De gens qui disent, voilà, notamment de gens du côté de Marseille. Il faut imaginer, moi, mon premier rapport à Bernard Tapie, c'est je suis né, j'ai grandi dans une cité d'Avignon qui s'appelle Larenjane. En 87, donc 94, ouais. J'ai 7 ans, je suis un gamin. Ouais. Et il y avait des posters de Tapie dans les bars. Et dans les tabacs.
Ça vous donne quand même une idée. Non,
je vous assure, parce que l'OM.
À côté de. Ouais.
Qui rayonne hors des limites de Marseille. Je veux dire, l'OM, c'est Aix-en-Provence, c'est Avignon, c'est Toulon, c'est la chose qui fédérait le grand chef d'entreprise et le prolo, l'immigré et le français de France depuis toujours, le musulman, le chrétien, l'athée. C'est-à-dire que la religion, c'était l'OM et Tapie était son prophète, quoi. C'était vraiment ça. Et donc, il y avait des posters. Moi, je me souviens, on était gamins, on allait au bureau tabac. Il y avait des photos de Tapie, il y avait des posters dans les PMU. Et donc, c'est dire si, dans cette région-là notamment, il a vraiment très fortement marqué les esprits. Alors, et je pense que les gens, pardon, en 10 secondes, sont extrêmement touchés par le fait qu'ils demandent à être enterrés à Marseille. Oui. Parce que souvent, bon, vous avez des gens, ils font carrière dans une ville, et puis on rentre à Paris, on revient vivre à Paris, on meurt à Paris, on est enterré à Paris. Le fait qu'ils retournent reposés à Marseille,
disait, et Samia a raison. Samia Ghali nous disait, il voulait de toute façon finir sa vie à Marseille.
Il avait été extrêmement ému lorsqu'il avait annoncé qu'il allait être soigné sur un traitement expérimental avec du matériel marseillais et qui se faisait soigner dans la ville de Marseille. Oui. Et il avait les larmes aux yeux. Il avait ce lien charnel avec la ville, qui était un lien politique. C'est sa première victoire électorale, qui était un lien footballistique. Hein. Moi, j'étais plutôt Saint-Étienne, mais en 93, tout le monde était derrière l'OM lors de cette fameuse finale. Et puis, il avait un lien charnel.
Alors, on parlait effectivement de l'homme politique, de l'homme d'affaires. Il y avait bien sûr cette affaire. On y reviendra encore tout à l'heure dans la spéciale. Mais parlons-en maintenant de l'affaire OMVA. Écoutez, Bernard Tapie, c'était en 1993 sur Europe.
Personne n'est dû. On assiste à la chasse à Tapie. On veut ça. Je trouve ça un peu dégueulasse, mais il faut l'accepter. Quand on a les ambitions que j'ai, il faut savoir qu'il y a ce risque. Donc cette chasse-là, cette chasse organisée, qui s'appelle de la chasse à cour, elle est organisée avec un seul objectif, tuer Tapie.
Voilà, l'objectif était de tuer Tapie. Bonsoir Eric de Montgolfier.
Oui, bonsoir.
Bien sûr, vous étiez au centre de cette affaire OMV. Vous étiez l'ancien procureur dans cette affaire OMVA. Comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui à la disparition de Bernard Tapie, toutes ces années plus tard ?
Je vais commencer par dire que c'est pas mal d'être mort, finalement. Parce que depuis ce matin, c'est beaucoup de choses à la gloire de Bernard Tapie qui, de mon point de vue, n'en méritaient pas tant. Y a des choses très positives dans Bernard Tapie. On ne peut pas le cacher. C'est une évidence qu'il a des qualités exceptionnelles, que c'est un battant, que si, que ça. Enfin, moi, je lui ai toujours trouvé beaucoup de qualités, donc je ne suis pas surpris. Mais il faut bien admettre, en pendant de ses qualités, qu'il avait de quelques sérieux défauts. Alors, cessons de, parce que quelqu'un est mort, d'oublier qu'il a une personnalité qui, comme pour chacun, est faite de plus et de moins. Et c'est important de le rappeler. Je crois que la mort ne peut pas effacer une personne. Et c'est effacer une partie de cette personne que d'oublier une partie de ce qu'il fut.
Qu'est-ce que vous gardez, vous, dans votre souvenir, précisément, Eric de Montgolfier ?
Oh, j'ai le souvenir de quelqu'un que j'ai fait condamner pour corruption. Oui. Que voulez-vous, j'ai, parmi tous les gens que j'ai pu poursuivre pendant près de 40 ans, il y a Bernard Tapie. Mais ma vie professionnelle ne peut pas se résumer à Bernard Tapie. C'est sans doute un passage qui n'était pas négligeable, ne serait-ce que par l'intérêt médiatique qu'il a provoqué, par l'intervention d'un président de la République pour peser sur le cours de la justice. Oui, tout cela existait, mais je ne vais pas dire que c'est l'essentiel de ma vie.
Vous avez des souvenirs, évidemment, j'imagine, de conversations avec lui ?
Là, j'ai eu une conversation avec lui en tête-à-tête, en partie avec son avocat. Mmh. Et puis une fois, une émission, ce n'est pas un souvenir exceptionnel, sous l'animation, avec l'animation de Ruth-Anne Krief, mais pas beaucoup plus. Et le véritable tête-à-tête que nous avons eu, oui, je m'en souviens parfaitement encore, malgré les années passées. Oui, c'était un grand fauve qui pénétrait dans mon bureau, mmh, avec sans doute l'idée de dévorer le dompteur, vous... celui qu'il prenait pour le dompteur. Et puis, bon,
vous vous y attendiez, Eric de Montpellier.
Mais oui, je m'y attendais d'autant plus que dans l'après-midi, on avait découvert 250 000 francs dans le jardin de la tante de Robert, l'un des joueurs des Valenciennes corrompus, et que Boro Primorac, je l'avais rencontré l'après-midi même, avant Bernard Tapie, où il m'a expliqué la tentative de subornation dont il avait fait l'objet. Voilà, donc c'était pas la situation la plus inconfortable pour moi.
Merci beaucoup d'avoir témoigné en direct sur Europe 1 et merci pour votre franchise, Éric de Montgolfier, ce soir sur Europe. Frédéric Dabi, c'est vrai qu'il y a les deux aspects du personnage,
oui,
c'est totalement indéniable.
Mais... Je suis quand même étonné d'entendre M. de Montgolfier feindre qu'après la disparition d'une personne, on ne soit pas sur une logique de droit d'inventaire, mais une logique plutôt émotionnelle. Il viendra bien sûr. Comme pour un homme politique, comme pour Mitterrand le 8 janvier 96.
Ça, je vais vous dire, Frédéric, c'est
mon avis personnel. C'est pas l'avis de l'IFOP, c'est mon avis personnel. Donc, je trouve ce témoignage extrêmement, extrêmement froid et il me gêne beaucoup.
Christian Proto.
Je partage un peu ce point de vue, mais bon. Je pense qu'il y a... Les gens restent ce qu'ils sont.
Amine El-Khatmi.
C'est étrange. Enfin, un homme part et oui, sa vie a été faite de grands moments et de moments plus sombres. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu rappeler d'abord ? Qu'il a été condamné pour corruption, qu'il y a eu l'affaire Adidas, qu'il y a eu...
Les gens le savent.
Les gens d'abord le savent. Mmh. Et puis respect dû aux morts et respect à ceux qui restent, à ses enfants, à ses proches, qui n'ont pas forcément envie, dans un jour pareil, en allumant la télé ou en allumant la radio, d'entendre que la première chose que l'on retient de leur père, c'est qu'il a été... ça ne veut pas dire que ces affaires n'ont pas existé. Tout le monde s'en souvient. Et puis le temps de les rappeler, de faire le bilan viendra.
Alors, Éric de Montgolfier vient de parler d'un fauve qui s'apprêtait à dévorer son dompteur. C'était un peu ça aussi, Bernard Tapie. Et on peut en témoigner ici à Europe 1. On va écouter deux sorties. Alors, ce sont des sorties verbales, ce sont des sorties tout court. C'est quand Bernard Tapie se fâche avec le journaliste et qui sort du studio.
Si on passe la matinée pour parler de ce que Frattani a dit, je me lève et je vous laisse toute seule. On est d'accord ? Je suis venu parler de mon procès et de ce qui se passe dans le pays.
Alors, je vous parle
s'il n'y a que ça qui vous intéresse, moi, ça ne m'intéresse pas.
Bernard Tapie,
je ne vous répondrai pas.
Frattani.
Et vous ne serez pas la première.
Non, mais vous avez...
Allez, au revoir, madame.
Mais non, mais non. Bernard Tapie...
Allez,
Bernard Tapie...
Vous
plaît, mais non, mais vous savez... Madame. Bernard Tapie, c'est ridicule, franchement. Voilà. Vous saviez très bien qu'on parlerait de ça. Bernard Tapie.
Bernard Tapie qui vient de quitter le studio.
Oui, oui.
Mais pourquoi vous alliez le voir? Mais moi, j'ai pas de problème.
Mais si vous avez un problème, apparemment, ça vous ferait plaisir de sortir quelque chose. Mais attendez, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne connaissez rien à cette affaire. Vous ne connaissez que ce que les journalistes véreux font passer en message.
Mais ça ne sert à rien. Savoir quoi, les policiers,
ça ne sert à rien.
Les nombreux rendez-vous que vous avez avec Claude Guéant le 2 septembre 2015, vous lui écrivez.
Allez, merci beaucoup.
Ah non. Mais Bernard Tapie, non mais.
Ça va.
Bah voilà.
Si ça vous dérange pas, la justice faire son boulot.
Mais absolument.
Voyez,
mais il n'est pas question d'intervenir après la justice. Enfin bon.
Voilà. Bernard Tapie, avec dans les matinales de Thomas Soto et de votre serviteur, avec qui répondait en l'occurrence aux questions de dans le premier extrait d'Audrey Crespo-Mara, qui justement lui posait la question sur Marc Frattani, qui aurait à l'époque, qui témoignait sur le fait que Bernard Tapie aurait acheté un arbitre. Je voyais évidemment sourire.
Entre Academy. Nous, ouais. Il était aussi un peu invité pour ça. Je veux dire, si vous voulez.
C'est d'ailleurs ce qu'on lui a, entre guillemets, reproché à l'époque. C'est-à-dire, il y a quand même un entretien préalable à l'interview où on se dit, voilà, vous allez parler quand même de ces sujets-là.
Oui, mais on sait qu'il ne le respectera pas.
On ne tombe pas de l'armoire.
Mais on sait qu'il ne le respectera pas. Il l'a fait, il n'a pas fait une fois, cinq fois, dix fois. Il le faisait à peu près à chaque fois. Donc vous saviez très bien que lorsque vous étiez journaliste, lorsque vous étiez une rédaction, qu'en invitant Tapie, il ne répondrait pas aux questions, et puis il vous en mettrait plein la gueule, et il y avait une chance sur quatre pour qu'il parte avant la fin. Bon, bah après, vous le savez, et puis ça n'a pas empêché les gens de continuer à l'inviter, parce que,
un ovni ? Non.
Pas un ovni, mais un bon client. Mmh. Voilà, je veux dire, vous invitez des gens, vous savez d'avance qu'ils seront chiants, pardon, pour la
vous inquiétez pas.
Savez ce qu'ils vont vous dire, vous savez la réponse qu'ils vont vous faire, et vous savez sur quel ton ils vont le faire. Bon, bah avec Tapie, c'était tout le contraire.
Dernier chapitre de sa vie, Bernard Tapie luttait contre le cancer pendant 4 ans, cancer qui... Donc, Thibaut Huet a fini par l'emporter.
Ouais, Bernard Tapie le répète à plusieurs reprises, le cancer, c'est le match de sa vie. Quand il l'apprend à l'été 2017, ses proches lui conseillent de garder sa maladie secrète, de ne rien dire pour ne pas réjouir ses ennemis. Mais l'homme d'affaires n'écoute personne. En septembre 2017, il annonce la triste nouvelle et provoque l'émoi. Dans le stade Vélodrome, de grandes banderoles de soutien sont déroulées. Courage Nanar, on est avec toi, ou encore Bernard, à jamais le premier. C'est à ce moment-là que l'on découvre l'invincible Bernard Tapie, physiquement affaibli, le teint blafard, la voix de plus en plus étouffée. Il n'a cessé de décliner tout en gardant beaucoup d'espoir. C'est ce qu'il confiait il y a 5 mois à Gilles Boulot sur le plateau de TF1.
On n'a pas à se vanter de trouver le courage. On a à avoir honte de ne pas l'avoir. Et il faut l'avoir. Il est à la portée de tout le monde. D'autant plus qu'aujourd'hui, sachez une chose, c'est que la science va à une vitesse incroyable. Donc il faut se battre.
Pendant toute sa maladie, Bernard Tapie ne quitte jamais la lumière. Il est resté très présent dans les médias jusqu'à regagner une popularité écornée par ses déboires judiciaires. Mais son cancer de l'estomac s'est rapidement étendu à l'œsophage, au poumon, puis cette année au cerveau et au rein. Il sera inhumé dimanche à Marseille dans la cathédrale de la Major.
Merci de ces précisions, Thibaut Huet. Dernier hommage, effectivement. On suivra évidemment sur Europe 1 ces hommages à Marseille pour cette disparition de Bernard Tapie à l'âge de 78 ans. Nous sommes... sur Europe 1, en édition spéciale jusqu'à 20h. Sont présents sur ce plateau Christian Proutot, fondateur du GIGN, le président du Printemps Républicain Minel Khatmi, le directeur opinion de l'IFOP Frédéric Dabi et Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Justement, on parlera de sport. Bah oui, j'évoque Marseille. Je ne peux pas évoquer Marseille sans évoquer l'OM. On parlera évidemment du sport et de Bernard Tapie, mais aussi de Bernard Tapie, l'artiste tout à l'heure. On évoquera ses chansons, notamment avec Didier Barbelivien. Vous restez avec nous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale. Pierre de Villeneuve.
Émission spéciale jusqu'à 20h pour parler bien sûr de Bernard Tapie, l'homme aux mille vies, l'homme aux mille visages. Tapie 1943-2021, l'homme d'affaires, l'homme politique et puis le patron évidemment de l'OM, mais pas que, parce que le sport et Bernard Tapie, ça fait tout un chapitre. Christian Proutot est avec nous, fondateur du GIGN, Amine El Khatmi, président du Printemps Républicain, Frédéric Dabi, directeur opinion de l'IFOP et... mon collègue d'Europe 1, Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. J'ai parlé un peu vite, mais effectivement, le sport et Tapie, ça ne fait qu'un.
Oui, ça a commencé en fait par le cyclisme en 1984 avec La Vie Claire qu'il reprend. Enfin, c'est même pas qu'il reprend, c'est qu'il crée.
Un franc symbolique.
En fait, oui. C'était une boîte qui sommeillait. Hein. Il n'y avait pas encore la vague du bio et Bernard Tapie avait misé sur La Vie Claire et l'alimentation de qualité. Et il s'est dit que s'il y avait un sport dans lequel il y avait quelque chose à faire, c'était le cyclisme. Et avec Bernard Hinault, ils vont tenter un pari fou. Bernard Hinault est un petit peu déclinant à l'époque. Il revient d'une opération au genou. Il avait de gros problèmes. problèmes physiques et il y avait peu de gens qui estimaient qu'il allait encore performer au plus haut niveau. Et donc Bernard Tapie s'associe à Bernard Hinault. Ils ont l'idée de génie de mettre Greg LeMond, qui était une vedette de l'époque, dans la même équipe. Et en 2 ans, ils vont remporter 2 Tours de France, 85 Bernard Hinault, 86 Greg LeMond, avec cette fameuse image au sommet de l'Alpe d'Huez.
Oui,
avec les deux qui se tiennent main dans la main. C'était totalement mis en scène, mais c'était magnifique. L'image reste encore aujourd'hui.
Vous voulez qu'on écoute Bernard Hinault ?
Avec grand plaisir.
Allez, on y va.
Ce que je vais retenir, c'est que c'était un homme de défi, quelqu'un qui avait les choses, qui a envie de se battre tout le temps. Et il l'a prouvé jusqu'à la dernière moment de sa vie, dans certaines communications qu'il a fait. On a vécu des moments fantastiques pendant 3 ans, même après. Déjà, le fait qu'il me fasse confiance à un moment donné où j'étais en difficulté au niveau de la compétition, où il disait qu'il fallait y croire, il faut y croire pour aller jusqu'au bout. Et c'est triste. Paix à son âme.
L'émotion de Bernard Hinault.
Ah, c'était un roman, parce qu'encore une fois, Bernard Hinault était sur la fin de sa carrière et ça a été son dernier grand défi, sa dernière grande victoire. Et je rappelle que depuis, aucun coureur français n'a pu remporter le Tour de France.
Alors ensuite, il y a eu le foot.
Oui, donc il reprend l'OM en avril 86 sur les conseils d'Edmond de Charleroux, qui était l'épouse de Gaston Defer, qui était le maire de Marseille à l'époque. Il se désespérait de voir l'OM vivoter, il n'y avait pas grande ambition, il n'y avait pas de grand destin. Et le soir d'un dîner en l'honneur de l'URSS, à l'ambassade du RSS, Bernard Tapie et Edmond de Charleroux se rencontrent. Il y a une espèce de coup de foudre réciproque. Elle va voir Gaston Defer, elle lui dit, il y a ce monsieur-là, un entrepreneur, il faut que tu ailles le voir parce qu'il a peut-être quelque chose à faire pour l'Olympique de Marseille. Et quelques mois plus tard, la chose se fait. Gaston Defer ferme les yeux et Bernard Tapie prend l'OM et il va révolutionner ce club en quelques mois. Ça va durer 8 ans. Et en 8 ans, on l'avait dit dans le journal de 19h, c'est la Ligue des champions, c'est 4 titres de champion. Le 5e n'a pas été attribué en 93 sous la pression de l'affaire VAOM, une Coupe de France et des images et des joueurs et des spectacles absolument inoubliables.
Et le 26 mai 1993, qu'est-ce qui se passe?
C'est la finale de la Ligue des champions à Munich, OM Milan AC.
Écoutez.
Fabuleux David Pédé, Basile Boli, notre brave Basile. Marseille est champion d'Europe. Je vous le dis, Marseille est champion d'Europe. C'est la première fois dans l'histoire du football français qu'une équipe remporte la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est fabuleux. Marseille heureux. Marseille euphorique ce soir.
J'en ai des frissons, moi.
Ouais, parce que Eugène Saccomano.
Ouais. C'est un bonheur énorme d'écouter Eugène Saccomano, qui a été une grande voix d'Europe 1. Et c'est vrai qu'on se souvient de ses hurlements sur le but en or de David Trezeguet en 2000. Mais là, c'est peut-être sa deuxième sortie qui est la plus mémorisée, parce qu'on écoutait beaucoup la radio, on ne voyait pas le foot qu'à la télé à l'époque.
Il faut dire que Gênes était marseillais aussi. Donc vous avez dans sa voix non seulement l'émotion du journaliste sportif, mais
il y a
également
toutes les tripes.
Parce qu'il était supporter de l'OM.
Bonsoir Jean-Claude Dacier.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale consacrée à Bernard Tapie. Bien sûr, il y a eu ce sonore qu'on vient d'entendre qui, j'imagine, vous émeut tout autant que nous.
Oui, ça m'a fait plaisir de réentendre la voix de mon ami Saccomano. Je suis comme vous, j'en suis tout retourné. Alors, on perd non pas aujourd'hui Saccomano, qui est mort il y a déjà quelques mois, mais avec Tapie, ça fait une triste journée.
C'est vrai, Jean-Claude Dacier, que vous qui avez été président de l'Olympique de Marseille, vous avez eu à affronter cette succession. Alors, vous avez remporté des trophées, Jean-Claude, mais Bernard Tapie, c'était une espèce d'ombre un peu tutélaire pour l'Olympique de Marseille.
Ça n'avait rien à voir. Et je ne me suis évidemment jamais comparé à sa trajectoire, à ses succès. La Ligue des Champions, c'est autre chose. J'y suis allé à Marseille, sans doute un peu grâce à lui, parce que il était, vous le savez, actionnaire de TF1 quand il était au sommet avec l'Olympique de Marseille. Et j'étais patron des sports à l'époque. Oui. Et donc j'allais régulièrement avec lui à Marseille. Et quand il s'agissait d'aller voir des matchs de Coupe d'Europe, on y allait également souvent ensemble. Et donc j'étais un peu familier du club, des dirigeants de l'époque, de la manière dont les choses se passaient. Et c'est un peu grâce à lui que je lui ai non pas succédé, on ne succède pas à Bernard Tapie, mais j'ai essayé de faire le boulot, et ça c'est grâce à des chances, ça s'est pas si mal passé, mais enfin, rien à voir avec Bernard Tapie et son succès en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est un Graal qui est tellement difficile à atteindre, le Paris SG le démontre année après année. Vous savez, je me souviens, moi, de cette période où, qui en même temps, si vous voulez, a mis tapis au sommet, le football français au sommet, on n'avait jamais vu ça. Et puis en même temps, c'est 93. Il y a déjà l'affaire de Valenciennes. Alors, on ne va pas en parler ce soir dans les détails. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Mais,
malheureusement, ça a déjà été fait. Par Éric de Montgolfier qu'on a eu tout à l'heure.
Je m'en souviendrai toute ma vie. Évidemment, on avait fait, une journée spéciale pour cette finale de Munich. On était avec Bernard depuis la veille au soir. Et le soir, je le vois, il était évidemment illuminé. Et je le vois dans sa voiture, il quittait le stade. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Valenciennes? Bon, ne t'inquiète pas pour ça, c'est des conneries, ça ne veut rien dire. Et là, c'était terrible parce que ça a été le début de la descente aux enfers. Mais enfin, retenons aujourd'hui, j'imagine que Marseille, ça a été un grand moment. Vous savez, quand je disais parfois aux supporters marseillais qui venaient me voir, je leur disais, écoutez, oui, mais tapis, l'affaire de Valenciennes, quand même, pourquoi il a fait cette bêtise? Oh, mais président, tout le monde fait la même chose, tout le monde triche dans le football. Il est intouchable à Marseille. Ceux qui sont des amoureux de tapis le resteront toute leur vie. Il marque, il a marqué le stade à vie. Et j'imagine que l'hommage qui lui sera rendu, je crois c'est mercredi ou jeudi, va être exceptionnel comme il le mérite. Parce que franchement, il a donné au football français et à la ville de Marseille toutes les joies qu'elle espérait de tout temps et qu'elle continue d'espérer.
Amine El-Khatmi veut vous parler, Jean-Claude Dacier.
Oui, Jean-Claude, oui. C'est Amine. On a déjà eu cette discussion ensemble, mais peut-être pour nos auditeurs les plus jeunes, rappeler à quel point, et tu m'en avais très bien parlé, à quel point sans doute Marseille, comme nulle autre ville dans ce pays, est intimement lié à son club. C'est-à-dire que c'est pas juste un club de foot comme on en connaît dans d'autres villes. Il y a quelque chose d'un lien indescriptible entre la ville et son club.
C'est tout à fait vrai. On le voit encore aujourd'hui. Je veux dire, l'OM, c'est Marseille. Et Marseille, c'est l'OM. Quand j'y suis arrivé, j'avais pas un poil de sec. Hein. J'avais beau avoir un peu l'habitude de fréquenter le club à l'époque avec Bernard. Franchement, vous arrivez au pied d'une montagne, quoi. Il fallait des résultats. En plus, il n'y en avait pas eu depuis longtemps. Il y avait une pression formidable des élus. Il y avait une pression formidable des supporters. À chaque fois, ça ne nous est pas arrivé souvent, remarquez, avec Deschamps, quand on perdait au Vélodrome, mais c'était, je restais chez moi pendant 3 jours parce que c'est quelque chose qui physiquement meurtrissait les supporters de l'OM. Donc voilà, heureusement, encore une fois, grâce à toute l'équipe avec qui j'ai travaillé là-bas, on a eu, je sais pas, 3 ou 4 titres, champion, vice-champion, 2-3 titres de la Coupe des Champions. Ça a fait en sorte que les choses se sont bien passées. Le maire à l'époque était Jean-Claude Godin, c'était pas un fanatique du football. Mais il me disait, président, je vous en supplie, débrouillez-vous comme vous voulez avec vos camarades Deschamps, mais faites en sorte que les choses se passent bien. Et dès qu'il y avait un mouvement difficile avec les supporters, ce qui arrivait parfois, ne sont pas des violents, contrairement à ce qu'on pense, les supporters de Marseille, mais ils ont des grandes E. Bon, et ils ne supportent pas que les périodes soient difficiles et que Marseille ne gagne pas.
Jean-Claude Dacier, Jean-François Pérez, vous parlez aussi. Jean-François Pérez, vous parlez. Attendez une seconde.
Oui.
Non, c'était pour redonner la parole à Jean-Claude et pour lui dire aussi que il a été le patron des sports de TF1 à un moment où c'était un moment rare dans l'histoire des médias, ouais, d'avoir un club qui marche aussi bien dans une France qui n'arrivait pas à gagner quoi que ce soit en sport à peu de choses près. Voilà, et Bernard Tapie a été intimement associé à ça. Tapie, l'OM, TF1, Jean-Claude, c'était un triptyque incontournable au début des années 90.
Patrick Lelay m'avait dit un jour, une fois je lui confiais les difficultés que je pouvais avoir parfois, il m'a dit, je ne veux même pas le savoir, vous entendez, je ne veux pas le savoir. Débrouillez-vous comme vous voulez avec Tapie, considérez que l'Olympique de Marseille, ça fait partie du capital de TF1.
Ouais.
Avec ça, j'avais ma feuille de route. Et c'est vrai que le camarade Tapie, on peut le raconter maintenant, il y a prescription, quand je partais jouer au golf le samedi matin ou le dimanche matin, téléphone sonnait. Alors, il ne s'annonçait jamais. Il ne disait pas « Bonjour, c'est Tapie ». Il fallait, on était censé le reconnaître immédiatement. Et tout de suite, il vous disait « Ah ouais, mais qu'est-ce que vous allez raconter encore demain dans Téléfoot ?»« Ah bah oui, évidemment. Oh, il n'y avait pas pénalty. Là, il n'y avait pas pénalty. Et là, l'arbitre. » Donc, il s'épanchait. Quand Marseille avait fait un mauvais match ou quand Marseille était battu, il défendait son club, il défendait ses joueurs, il faisait en sorte d'essayer d'exercer amicalement une pression sur moi pour que le lendemain dans Téléfoot, on fasse le meilleur possible pour l'Olympique de Marseille. Merci. Donc c'était un personnage
merci. Hors norme. Merci pour ce témoignage, Jean-Claude Dacier. On revient tout de suite dans l'émission spéciale jusqu'à 20h. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale.
Hommage à Bernard Tapie jusqu'à 20h avec nos invités Jean-François Pérez, Frédéric Dabi, Amine El-Khatmi et Christian Proutot. On parlait des hommages, alors on les a. Voilà, là, il y aura d'abord une première messe à Paris mercredi. Donc mercredi à Paris, il y aura un hommage au Stade Vélodrome à Marseille jeudi avant les obsèques vendredi à Marseille dans la cathédrale de la Major. Donc nous avons évidemment évoqué l'OM. On sait à quel point les supporters marseillais étaient fans de Bernard Tapie et derrière lui, et on avait compris quel était le lien entre Bernard Tapie et ce club. Il n'empêche, les supporters, il y en a partout et également à Lille, comme on peut l'entendre, c'est Charles Guillard qui les a rencontrés.
On a perdu notre boss, c'était le boss, le seul et unique. Celui qui nous a amenés tout en haut du toit de l'Europe. Le soir de 26 mai 1993, on a gagné la Coupe aux grandes oreilles. Donc c'est très dur, très 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 dur. Moi, ça fait 36 ans que je suis supporter de l'OM. J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Donc, j'ai tout connu, on a tout connu. On perd quelqu'un de notre famille. De toute façon, on est toujours là, on sera toujours là. Même dans les moments les plus difficiles, on sera toujours là.
Voilà, vous avez reconnu l'accent lillois de ce supporter de l'OM à Lille, au micro de Maximilien Carlier. Et alors, évidemment, il y a ce fameux, cette hostilité entre les supporters, entre rivalité entre les supporters parisiens et les supporters marseillais. Eh bien, il n'empêche, écoutez ces supporters parisiens qu'a rencontré à Rennes Charles Guillard.
Forcément, ça touche un petit peu, moins que pour les supporters marseillais, je pense, mais évidemment, ça fait quelque chose. C'était un grand homme du football, ouais. On ne sait pas s'ils l'ont gagné de manière totalement légitime, mais ils ont quand même gagné la Ligue des Champions. Donc,
C'était un grand homme du foot, ouais. C'est un mec qui a marqué le foot, c'est un mec qui a apporté énormément à l'Olympique de Marseille, et pour ça, bah, il doit avoir tout le respect qu'il mérite, quoi.
C'était un bon président de club à l'époque, même s'il a magouillé un peu, mais bon.
C'est quand même un grand président, et c'est lui qui a lancé les classicos OM-PSG. Pour Marseille, tous les supporters, à mon avis, vont être en deuil aujourd'hui, quoi. Même si on n'aime pas Marseille, quand même, on est vraiment touché. Ouais.
Sans aucune rancune.
Voilà, parole de supporter au micro d'Europe 1. Oui. Ça me fait penser au dîner de cons où on force Jacques Villeray à dire allez l'OM. Quand
oui,
même,
sachant que ça vient même, ça va même plus haut, puisqu'on a vu le compte officiel du Paris Saint-Germain rendre un hommage à Bernard Tapie, parlant d'un homme passionné, d'un grand président de club. Quand on se souvient de l'antagonisme PSG-OM à l'époque et qui continue encore, ça en dit long sur voilà, Bernard Tapie met tout le monde d'accord.
Ce sont deux clubs qui se sont aidés d'une certaine manière dans les années 90 à devenir plus grands. L'Olympique de Marseille a été...
Par leur rivalité ou bien...
Bien sûr, ouais, bien sûr, une rivalité qui a été construite par Bernard Tapie et par Michel Denisot dans une grande mesure, en tout cas les dirigeants du Paris Saint-Germain de Canal+ de l'époque, parce que Bernard Tapie avait besoin pour aller gagner la Coupe d'Europe d'une équipe en France ou d'un rival qui soit fort pour bien préparer justement les joutes européennes. Et puis le PSG et Canal+ avaient besoin d'un championnat de France intéressant pour les finances de Canal+ aussi, parce que tout ça c'est du business malgré tout. Donc l'OM a profité du PSG, le PSG a profité de l'OM, puisqu'après l'OM c'est le PSG qui a été champion de France.
Christian Proutot.
Oui, je voudrais faire un petit parallèle qui va paraître un tout petit peu déplacé, mais qui est vraiment important par rapport au meneur d'hommes. Moi, ce que j'ai admiré en Tapie, parce que je l'ai croisé, c'est j'ai croisé ce côté meneur d'hommes, c'est que moi qui n'y connais pas grand-chose dans la technique du football, j'aime bien le football national quand les grandes équipes se rencontrent, mais ce football européen, etc., où tout est commenté, le pénalty, j'y connais pas grand-chose, la technique. Et Tapie, pour l'avoir entendu parler de ça, il était capable, je crois, de dépasser l'entraîneur, de donner ses consignes, de faire, je pense que les spécialistes pourront en parler. Sur un match, il était capable de dire « il faut déplacer celui-là, tu dois enlever celui-là mm-hmm. ». Et je crois que c'était une véritable passion et il avait une connaissance très fine du football, comme je pense pour tout ce qu'il faisait. Quand il le faisait à fond. Et moi, j'ai reconnu ça et ça peut marcher, et c'est là où je voulais en venir, que quand les gens vous suivent, parce que, et c'était le côté que j'aimais beaucoup chez lui, oui. c'était ce côté meneur d'homme où qui avait l'adhésion ou la répulsion, bien sûr. C'est toujours binaire. Mais l'adhésion, quand il l'avait, les gens pouvaient le suivre n'importe où.
Jean-François ?
Je vais vous raconter une petite anecdote qui donne quand même une idée du management de Bernard Tapie et du génie qu'il pouvait avoir en certaines circonstances. La finale de la Ligue des Champions à Munich, donc en 93.
Ouais.
Le match commence, Basile Boli très vite ne se sent pas bien. Il y a des petits problèmes musculaires, enfin problèmes au genou en l'occurrence, ça couine, ça siffle, il ne se sent pas bien et au bout de 20 minutes, il fait signe au banc de touche marseillais, il fait les petits doigts qui tournent, ça veut dire je veux me faire remplacer, je ne me sens pas bien. Et il se trouve que Bernard Tapie, qui n'est pas sur le banc de touche ce soir-là, mais qui est en tribune, communique avec le banc de touche en bas par un talkie-walkie. Mm-hmm. Et quand l'info lui remonte que Basile Boli ne se sent pas bien et qu'il faut le remplacer, Tapie est furieux et il dit au talkie-walkie à Jean-Pierre Barnès, qui est un petit peu en dessous, il dit c'est hors de question, il finit la mi-temps, on verra après. Mais il finit la mi-temps, vous lui dites comme vous voulez, il ne sortira pas. Derrière, le staff donne la consigne à Boli, qui est furieux parce que vraiment, il ne se sent pas bien, il veut sortir et il dit qu'il est en train de gâcher sa finale et celle de son équipe. Et Boli est obligé de s'accrocher. 20 minutes plus tard, il marque le but de la tête. L'OM gagne 1-0 et remporte la Ligue des Champions.
C'est du coaching.
Et ce qui était drôle, c'est qu'il arrivait à imposer des conseils à Raymond Gauthels, qui était un entraîneur belge extrêmement chevronné, capé, mais ça ne lui faisait pas peur. Dès qu'il faisait quelque chose, il s'investissait et devenait un véritable expert.
Alors, lors de ce match, il y avait aussi un certain Jean-Marc Ferreri.
Bien sûr.
On va l'écouter.
On le pensait presque immortel. Un jour, quand j'étais au CER chez Giroud, il m'a appelé, il m'a dit « viens nous rejoindre ». C'était pratiquement à la fin du mercato d'été. J'ai pas hésité une seule minute et je suis arrivé. Évidemment, cette année qui était magique pour nous, quand on a réussi à être champion de France et champion d'Europe, c'était une année fabuleuse. Et j'ai découvert un homme formidable, charismatique. Moi, j'ai été fasciné par son intelligence, par... sa culture tactique du sport, il connaissait parfaitement le football et il avait une énergie extraordinaire. C'était un homme vraiment fabuleux qui restera gravé dans les mémoires de tous les Français.
Voilà, témoignage de Jean-Marc Ferry à votre micro, Jean-François Pérez. Là, on reconnaît le Bernard Tapie, j'allais dire, DRH chasseur de tête, hein, c'est ça, il va le débaucher directement.
Oh, mais il en a fait beaucoup, comme oui, ça. Des joueurs qu'il a réussi à convaincre, qu'il n'était pas
Bernard.
Forcément,
ouais,
mais parfois même, il ne laissait pas le choix.
Ah
alors,
bon
absolument. Dont certains acceptaient, Papin a accepté alors qu'il était sur le point de signer à Monaco. Non, mais c'est vrai, il a piqué des joueurs parfois avec des méthodes qui était à l'extrême limite. Hein. Abedi Pelé, qui était venu à Marseille, et Tapie qui avait fait croire aux dirigeants de Monaco qu'il avait une maladie incurable, que c'était pas la peine de le faire signer. Non, mais c'est vrai.
Oui, tout ça. Mais je vous crois, vous ne regardez pas comme ça.
Et parfois, il allait chercher des joueurs en vacances aussi. Marcel Dib, par exemple, qu'il était allé cueillir en Guadeloupe alors qu'il était en vacances. Il dit non, tu viens tout de suite, tu prends l'avion, tu signes, on va faire un truc génial ensemble. Et Dib avait signé. Après, il y a ceux qui refusaient. Luxonor, par exemple.
Qu'est-ce qui se passe après? On se fait couper la tête quand on refuse avec Bernard Tapie ou...
Non, il ne se passe rien, mais c'est juste qu'il est comme
ça. Il passe
ça.
À autre chose ou il continue à rappeler
à autre chose. Non, il passe à autre chose. Ouais. Luxonor avait refusé de venir, il avait été dans son bureau et Tapie lui avait promis 1000 problèmes si jamais il refusait de venir à l'OM. Bon, il avait refusé, il avait poursuivi sa carrière. Mais voilà, c'était quelqu'un qui était entier pour le meilleur et pour le pire.
On va écouter Marcel Dib aussi, tiens.
C'est le lion qui s'en va, un grand président, un grand monsieur. C'est un Marseillais, il est comme nous, même s'il n'est pas né à Marseille ou dans un quartier de Marseille populaire. Il aimait le peuple, hein. Il s'est fait aimer, il s'est fait adopter. Pour moi, Bernard Tapie, c'est un Marseillais. Moi, j'ai eu pour mes 60 ans au téléphone l'année dernière. Il m'a fait plaisir d'avoir cette combativité, de ce âne qui lâche rien. Le lion est parti, mais à Marseille, il sera gravé à vie. Hein. C'est une légende, Bernard Tapie. Il est reconnu comme un battant. Il n'y en a pas beaucoup des hommes comme lui.
C'est beau tous ces hommages hein, quand même des joueurs de l'OM, hein, Bernard Tapie. Hein, ça fait plaisir. Ça, je suis assez ému, je vous le dis. Les amis, on va remarquer une pause dans cette spéciale Bernard Tapie. On va reparler du sport, on va parler aussi de l'homme, de l'artiste. Il touchait à tout. Je disais tout à l'heure en préambule qu'il avait même tellement touché à la Formule 3 qu'il avait pris goût. Il avait presque décroché des trophées au volant de la monoplace. On en parle jusqu'à 20h de ce Bernard Tapie qui nous a quittés ce matin à l'âge de 78 ans. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale. Pierre de Villeneuve.
Et cela pour rendre hommage à Bernard Tapie, dont les obsèques auront lieu à Marseille vendredi prochain dans la cathédrale Major. On aura un hommage jeudi au stade Vélodrome. Bien sûr, on vient d'en parler, les liens entre l'OM, Marseille et Bernard Tapie sont immenses. Et il y aura aussi une messe mercredi à Paris pour rendre hommage à Bernard Tapie. Bernard Tapie, l'homme d'affaires, Bernard Tapie, l'homme politique, ministre sous François Mitterrand, sous Bérégovoy, et évidemment aussi, puisque ça a été, sa première tentative, Bernard Tapie avec un Y, qui voulait devenir chanteur. On en parle avec Christian Proutot, Aminel Khatmi, Frédéric Dabi et Jean-François Pérez. Je vous propose d'écouter Claude Lelouch. Pourquoi ? Parce que il y a eu aussi la chanson, il y a eu le cinéma, il y a eu le théâtre, il y a eu tout ça. C'était tout ça, Bernard Tapie.
Écoutez, après Johnny, après Bernard, et avec Jean-Paul, j'ai perdu mes trois mousquetaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Bernard était un homme hors norme, qui a fait des choses hors normes. Et c'est vrai qu'il a été très triste que tous les grincheux et les jaloux lui pourrissent la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à chaque fois que j'ai rencontré cet homme, j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel, qui avait une vision du monde incroyable, un esprit de synthèse. Je souhaite à tout le monde de rencontrer des gens comme lui, parce que à chaque fois, il vous fait grandir, il vous fait comprendre l'incompréhensible. Mais je pense qu'on perd un grand bonhomme. Et c'est dommage qu'on lui ait fait tant de misère. Voilà.
Voilà la franchise de Claude Lelouch tout à l'heure dans Europe Midi avec Thierry Dagiral. Claude Lelouch qui avait fait tourner Bernard Tapie dans Homme-femme, mode d'emploi. Vous vous souvenez, Frédéric Dabi, vous, de Bernard Tapie, artiste ?
Oui, c'est vrai que c'était une période particulière après l'affaire OMVA, au moment où il fait des séjours en prison, où il est en régime de semi-liberté, je crois. Il revient, comme vous le dites, Pierre, à ses premiers amours. Hein, c'était Bernard Tapie dans les années 70 plutôt. Il n'y avait pas eu un très grand succès, hein, je crois. Et là, il est revenu, voilà, Claude Lelouch, homme-femme, mode d'emploi. Un clip un peu improbable avec Doc Gynéco en noir et blanc qui s'appelait C'est beau la vie. Et puis, on en parlait tout à l'heure, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et on le sait peut-être, mais vous le savez peut-être, il rêvait de remonter sur scène. Il avait, il y a encore 2 ans, ouais, 3 ans.
Alors qu'il était malade.
Il voulait bluffer tout le monde en rejouant ce rôle qui était popularisé par Jack Nicholson.
Ouais, rôle qu'il a joué une première fois en 1999.
Ouais, c'est cette époque, 96-99, où il a été vraiment artiste avant de revenir sur d'autres
terrains. Ouais, effectivement, un roman, et puis ensuite, effectivement, un film avec Jack Nicholson dans les années 70. Christian Proutot, aviez...
Oui, moi, j'avais été touché par tout ce qui j'y étais arrivé, même, bon, c'est vrai que on dit la force injuste de la loi par moment, et je lui avais fait savoir, parce que comme j'avais des garçons qui avaient assuré sa sécurité et qui étaient toujours auprès de lui, et un jour, un des gars m'appelle, il me dit « Tapie vous envoie une invitation pour vol d'un nid de coucou ». Alors, je me suis dit « Tapie qui va jouer ça ? Qu'est-ce que ça va être ?» Surtout que pour moi, c'était Nicholson, c'était... Et je suis allé le voir et il m'a scotché. C'était incroyable la manière dont il tenait ce rôle, qui est un rôle qui est très difficile. En plus, avec un texte qui n'est pas facile du tout. Et il était, comme il est toujours, flamboyant. Et j'avoue que du Tapie spectacle, j'ai retenu ce moment incroyable où il était sur scène et où les gens ont fini tous debout à la fin, en train de l'applaudir.
Ouais. Rôle difficile, hein, effectivement, de ce délinquant dont on ne sait pas, d'ailleurs, jusqu'au bout du film ou de la pièce, il est fou ou pas fou, absolument. Alors qu'il est interné dans un asile psychiatrique. Jean-François Pérez, Bernard Tapie, artiste.
C'est aussi la comédie.
avec Oscar.
Ouais, exact.
Et oui, il s'était essayé à Oscar, il faisait rire hein, aussi. Mais sans dire long,
non.
Je l'ai vu pas au théâtre, mais j'ai vu des extraits vidéo. Et il faisait rire.
Et
il
avait.
Il était cabotin comme il fallait et tout.
Il regardait mais ça montre quand même qu'il n'a peur de rien. Passer après Louis de Funès, passer après Jack Nicholson, y aller et réussir. Ça montre vraiment ce personnage qui croit tellement en lui. Ça
pour utiliser un anglicisme, c'est dans le trend de sa vie.
Exactement.
Amine El Khatmi.
Oui, moi je me souviens notamment du fameux clip avec Doc Gineco qui tournait beaucoup, dans les quartiers où il était, il faisait preuve d'autodérision parce qu'ils avaient des allusions assez claires aux affaires où effectivement Doc Gineco lui disait mais est-ce que t'as remboursé le fric et l'autre se marrait à côté et donc voilà il y avait et effectivement ce côté mais qui, à mon avis, est un fil rouge de sa vie, c'est-à-dire un culot absolument monstrueux. Je veux dire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... c'est pas possible, bah si, c'est possible. Et,
Tellement pas de limite qu'il y a eu ça aussi.
Réussir sa vie, c'est d'abord choisir. C'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir sa vie. C'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit à l'aventure infiniment.
Réussir sa vie. Bonsoir Didier Barbolivien, merci d'être en direct. C'est vous qui avez écrit cette belle chanson.
Ouais, je réécoutais, c'est drôle parce que je ne me souvenais pas de toutes les paroles. Et en fait, je me rends compte que je n'avais fait que le décrire.
Ouais.
J'avais pas écrit, j'avais décrit.
Vous avez décrit Bernard Tapie.
Bah oui, c'est, j'entends les phrases là. Il était, voilà, c'était ça.
C'est quoi la genèse de la chanson
comme ça.
Comment est-ce que tout a commencé pour cette chanson?
Ça a commencé parce qu'on devait faire ça au profit de la fondation Personnage de Lino Ventura. Et Bernard, qui était un homme généreux, s'était enthousiasmé pour le projet. Et après. Moi, j'ai écrit ça, voilà.
Ouais. Et parce alors, quand
j'allais au plus simple, quoi. Enfin, c'était simple. J'avais un super modèle. J'avais qu'à raconter ce qui était devant moi.
Et alors, comment est-ce que s'est fait la rencontre? Comment est-ce que vous avez commencé à travailler avec lui? Comment ça s'est passé?
On travaillait pas. On était voisins. On n'habitait pas très loin l'un de l'autre. Ouais. Quand j'ai eu écrit, je lui ai dit passe à la maison. Je lui ai joué. Il m'a dit c'est super. Je voyais qu'il aimait ça comme un jeune chanteur, quoi, comme un type qui va faire un disque. Il était jamais blasé, quoi. C'est un truc qui m'impressionnait dans ces années-là. Je me disais mais il doit s'en foutre en fait de faire un disque parce que il est tellement dans les affaires, dans les réussites, dans ci, dans ça. Non, tout. Il prenait passion pour tout ce qu'il entreprenait.
Mais ça veut dire qu'il faisait plusieurs prises, il n'était pas content d'une tessiture de voix.
Il était très attentif. Non, il était très attentif. Il faisait le mec un peu désinvolte, mais en fait, je me rendais compte qu'il avait travaillé. Et en fait, il a enregistré en deux prises ou trois, pas plus.
Ah ouais? Ah ouais, c'est digne des chanteurs professionnels, ça.
Non, quelquefois, je montais.
Il n'avait pas que ça à faire.
Une phrase par-ci, une phrase par-là. Lui, pas du tout. Non, il savait ça comme un pro, il arrivait. La mise en place, la justesse, non. Mais moi, j'étais très étonné, hein, je vous avoue, de cet épisode. Il ne m'étonnait pas dans la vie, je le voyais régulièrement. Il me disait, tu devrais acheter ci, tu devrais... Moi, j'y comprenais rien.
Tu devrais acheter quoi pour des placements, vous voulez, pour des investissements?
Oui, pour des placements, exactement.
C'est génial.
Exactement.
Vous avez suivi ses conseils?
Non, jamais, parce que j'y connaissais rien. Je me disais, non, mais c'est
parce
trop
aventureux. Parce qu'il y a une raison, Didier Barbelivien. Moi non plus, j'y connais rien.
Il aurait fallu surveiller. Moi, j'étais trop laxiste, tête en l'air. Non. Mais j'étais impressionné par, son investissement, c'est le cas de le dire, sur ce projet artistique. Il était parfait, quoi. Franchement, parce que moi j'en voyais à l'époque, j'en passais des chanteurs dans les mains et tout ça, toute ma vie, j'ai eu un peu tous devant le micro. Lui avec Estardi, bon, Bernard Estardi qui avait fait la prise de son, les arrangements, tout ça. Nous, on était très dubitatifs au début. Je me disais, mais comment il va faire Bernard Tapie? Puis je trouvais que la chanson était haute, la tonalité. Et Bernard, même Bernard qui lui, on a, les a tous vus passer jusqu'au grand chanteur étranger, il me disait, il est incroyable, non?
Et après, ça vous a pas du tout étonné qu'il ait fait du cinéma, du théâtre?
Mais non, franchement, il aurait été champion automobile, artiste peintre. Moi, je m'étonnais plus de rien du tout avec lui. Plus rien m'étonnait. Sauf sa sympathie, quoi. Je trouvais, il avait toujours un mot sympa. C'était un type qui aimait vivre, quoi. Je pense que les dernières années de sa vie l'ont plombé. Enfin, toutes ces histoires d'affaires, de Crédit Lyonnais, de tout ça, ça lui a pourri les 20 dernières années. Mais sinon, c'était un battant, un type qui aimait la vie à la folie.
Vous le
Et
voyez...
sa famille, par-dessus tout.
Vous le voyez encore dernièrement, Didier?
Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et il était toujours à la barricade. Hein. Il n'était pas... comment dire, rabougri, amoindri, il avait perdu du poids, certes, mais l'œil était là, la voix était là, bien qu'enroué. Il était enthousiaste, il défendait, il jamais tiède, quoi. Jamais.
Et jusqu'au bout, sa femme était là, l'a accompagnée.
Ah, mais ça, c'est essentiel, non, Dominique, Sophie, les enfants, non, mais ça, c'était, comment dire... Ça, c'était le cœur de l'entreprise Tapie. Ça passait par le cœur. Le reste, ils s'en foutaient, hein, de vous à moi. Ils s'en foutaient pas. Ça faisait partie. Les affaires, c'était bien. Faire un disque, c'était bien. Tout était bien. Mais l'important n'était pas là. Non, l'important, c'était quand sa famille. Uniquement
vous,
sa famille.
Vous l'avez vu, Didier, quand il s'est fait tabasser dans sa maison de campagne, juste après, il vous en a parlé de cet épisode.
Non, mais je l'ai eu au téléphone. Non, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai eu au téléphone. Ouais, bon, c'était... ça m'a fait une peine immense, quoi. Ouais. Une peine immense. Comment on peut finir sa vie comme ça? Comment un monsieur amoindri, comment des gens peuvent agresser cet homme et cette femme dans leur maison? C'était le... De toute façon, la fin du parcours a été difficile et son courage admirable, vous voyez. Il n'avait pas peur de mourir. Hein. Je lui disais, de toute façon, tu n'as jamais eu peur de vivre, alors ça va avec. Hein.
Merci,
Didier. Il n'a jamais eu peur. Le principe de précaution, il ne savait pas ce que c'était. Non.
Merci pour ce bel hommage.
Mais on gardera le souvenir de cet homme... qu'on a eu la chance de connaître les uns et les autres, et la France entière elle a eu la chance d'avoir eu Tapie avec les hauts, les bas, les trucs. On prend tout en vrac.
Merci
beaucoup. On embarque tout, Bernard Tapie.
Merci
voilà.
Beaucoup, Didier Barbelivien. C'était un plaisir de vous avoir ce soir pour clôturer cet hommage à Bernard Tapie. Et on vous retrouve bien sûr tous les dimanches à 15h dans Dis-moi ce que tu chantes sur Europe 1. On va terminer, si vous le voulez bien, chers amis. Jean-François, vous me regardez, vous vouliez dire quelque
non,
chose?
Non, mais il y a toujours quelque chose à dire. Mais, oui, plus on y pense et plus on se dit qu'il n'y en avait pas d'autres, quoi, en fait, dans ce genre-là.
Oui.
Il a été construit en un seul exemplaire, Bernard Tapie, quoi. C'est impossible de trouver, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a la même trajectoire que lui. Ben non, c'est impossible.
Et c'est pour ça qu'on lui rend hommage pendant 2 heures. Et je vais vous dire, il sera encore question de Bernard Tapie demain dans la matinale. Je voulais qu'on entende quand même un extrait de Bernard Tapie. Il parlait justement de son rôle dans cette pièce « Vol au-dessus d'un nid de coucou ».
Ah, « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Ça, j'adorais. J'adorais parce qu'il y avait tout, quoi.
Tous
en plus, je venais de sortir du Club Méditerranée des Baumettes. Et donc, j'étais un peu motivé, tu vois. J'avais vécu quelques événements un peu durs, ce qui est un peu la vie de McMurphy. Et deuxièmement, parce que tous les ramulots du théâtre qui voulaient que je me plante, évidemment, disaient « Regarde ça, ce con, il veut faire McMurphy, pour qui il se prend, enfin, etc. » Donc, ils avaient tellement envie que je me vautre que ça me donnait encore un peu plus, quoi.
Voilà, McMurphy, je ne me souvenais plus. C'était avec Nikos Aliagas, évidemment, sur Europe 1.
Non, mais c'est intéressant.
ils avaient tous envie que je me vautre. Oui, et j'y suis allé. Ils avaient tous envie que je... Ils avaient tous envie que j'y arrive pas, en fait, en politique, dans une circonscription très difficile. J'y suis allé. Ils avaient tous envie. On peut faire une sorte d'anaphore qui fait jusqu'à la fin de l'émission. Ça a été son moteur, prouver aux autres qu'ils pouvaient réussir dans des domaines, dans des thèmes aussi éclectiques les uns les autres. C'est pour ça que cette phrase, l'homme aux mille vies, je trouve qu'elle résume parfaitement cette personnalité, comme vous le dites, hors norme.
Merci beaucoup à vous quatre. Merci Frédéric Dabi, Aminel Katmi, Jean-François Pérez et Christian Proutot. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir accompagné les auditeurs d'Europe 1, surtout pour cet hommage à Bernard Tapie.